Bon, ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne me détestez pas après ce que je viens de dire, mais je vous aime quand même, vous inquiétez pas. Nous, on dit 80, vous dites 80. Bon, vous êtes un peu comme les Français, mais bon, c'est pas très grave. Non, on rigole. Non, mais ma femme est française, c'est pour ça que j'ose dire ça. Elle est 100% française, et mon fils est moitié-moitié comme la fondue. Voilà, donc voilà. En tout cas, je suis très très honoré de pouvoir être là aujourd'hui. Je suis très honoré de pouvoir représenter ce que le Seigneur fait dans les vies. On a tous un témoignage. Vous tous qui êtes là, vous avez tous un témoignage de vie. Et aujourd'hui, c'est moi, mais je pense que chacun de vous pourrait témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, comme Dieu est grand, comme Dieu est bon. Et en tout cas, je vous aime, sachez-le. On va se retrouver pour l'éternité ensemble. Ça va être long, hein. L'éternité, c'est pas un jour, c'est pas deux jours. Et je me réjouis de pouvoir plus vous apprendre aussi à vous connaître dans l'éternité. Quelle joie de pouvoir avoir cette espérance du ciel. Je crois qu'on oublie souvent qu'on a l'espérance d'être paisible dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, dans la célébration pour le Seigneur Jésus, pour l'éternité, où il n'y aura plus ni souffrance, ni peine, ni pleurs. Et je pense que dans le monde où tout va vite aujourd'hui, on a tellement tendance à l'oublier. Où tout est fait pour nous distraire, où tout est fait pour nous éloigner de Dieu, dans notre relation intime avec Dieu. Et je vous encourage, c'était juste un petit encouragement, donc je commence, après je vous promets j'arrête, mais je vous encourage en tout cas à persévérer dans votre relation, parce que Dieu vous aime, il a sacrifié son Fils Jésus pour vous, pour nous, pour vous tous, parce qu'il a un amour inconditionnel pour vous tous, pour nous tous, un amour qu'on ne peut même pas imaginer, alors qu'on est tous pécheurs à la base. Mais le Seigneur nous a rachetés. Et je vous encourage à persévérer dans cette relation, dans ce sans compromis, parce que le Seigneur a vécu pour nous, au final, sans compromis. Et quelle joie, quelle espérance. Voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle du coup Yvan Dudin, comme je pense que vous l'avez pu comprendre. J'ai grandi dans la Gruyère. Je sais pas si vous savez où c'est, mais bon, c'est un coin là-bas à Paumé. Ah voilà, en course d'école, voilà. C'est où il y a les vaches et puis où on fait le fromage. Les Français se sont trompés avec le gruyère. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais non. Et du coup, j'ai grandi dans les environs là-bas. J'ai grandi dans une famille où c'était très spécial. Je pense qu'on a tous des familles spéciales, de toute façon, vous me direz, mais vous avez raison, parce qu'on est tous uniques. J'ai grandi avec un papa qui était très manipulateur, que ce soit dans les mots, dans les gestes, dans les émotions. Si on va dans son sens, c'est bon, c'est ok, c'est tranquille. Si on va pas dans son sens, il peut devenir violent dans les mots, il peut devenir violent dans les gestes. Il veut que ce soit comme ça, comme si, et pas autrement. Donc, on a grandi avec ma famille parce que j'ai trois frères et sœurs et ma maman. Dans cette atmosphère très lourde de peur, comme le monde nous inculque la peur, il faut avoir peur pour les enfants. On leur inculque même inconsciemment la peur pour leur dire qu'il faut faire attention à ci. C'est bien, attention, je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants faire n'importe quoi, mais on est quand même dans un monde où on nous inculque la peur. Et mon papa nous a bien, bien nous inculqué la peur à être tellement violent. Et c'est tellement triste, la violence, parce que ça amène à rien, à part la désolation, à part la destruction. Ça amène rien de bon. Ma maman, elle a fait du mieux qu'elle pouvait en essayant de minimiser la casse. Ma maman était chrétienne, mon papa se disait chrétien, mais pas du tout chrétien. On n'allait pas à l'église, j'ai pas été éduqué à la chrétienne, comme on peut dire. Donc j'ai pas eu cette éducation à savoir que j'avais un sauveur au-dessus de moi, qu'il y avait quelqu'un de plus grand que moi. Mais à un moment, elle priait toujours. Vous savez, toutes ces femmes et hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes de l'ombre. On les connaît pas, mais elles prient des heures et des heures, même pendant la nuit. Je suis sûr que vous connaissez des femmes comme ça et des hommes. Et c'est les plus extraordinaires personnes du monde, parce que c'est là qu'il y a le combat. C'est là que le combat se passe, c'est dans la prière, dans les heures d'intercession, dans la repentance, dans le cri de cœur au Seigneur. C'est là que tout se passe. C'est pas les gens sur scène comme moi, et c'est quand même une réalité, c'est la prière. Tout est dans la prière. Et ça, on a encore une fois tendance à oublier que tous ces gens dans l'ombre, c'est des personnes en or. Et on a tellement besoin d'eux. Donc, encourageons ces frères et sœurs qui sont dans la prière, dans l'intercession. C'est tellement bénéfique, tellement important, tellement primordial. Ouais, j'ai fini ma parenthèse. Et donc, ma maman, elle faisait ça dans l'ombre. Elle ne savait pas trop ce qui se passait à la maison parce que, ben, elle travaillait. Puis mon papa, du coup, des fois, nous gardait. Enfin, c'était des fois en alternance parce qu'ils avaient un. Quand on a grandi après, ils ont eu un restaurant à eux, donc voilà, avec les horaires et tout ça. Et mon papa a été très violent plus avec moi. D'un côté, je suis content parce que du coup, mes frères et sœurs ont pas trop ramassé. Et on peut se demander, mais pourquoi un seul et puis pas les trois autres? C'est toute une longue histoire, c'est peut-être pas l'histoire maintenant, mais voilà, il y a eu tout un rapport avec son frère qu'il a perdu quand il était jeune, que je lui ressemblais, et puis comme je comprends, c'est qu'il avait de la haine que moi je sois vivant et que son frère, qu'il était comme ça, soudé, qu'il soit mort et que je lui ressemblais. Du coup, il devait faire cette image, ce parallèle entre son frère et moi. Mais c'est moi qui ai subi. Et en même temps, je suis reconnaissant aujourd'hui presque parce que si j'avais pas subi comme ça, je pense pas que j'aurais rencontré le Seigneur. Si j'avais pas été si profond dans la mouise, dans la beuse. Vous dites la beuse ici ou? Ouais, ok. Non, je sais pas. Si j'avais pas été aussi profondément dans la beuse, dans la détresse émotionnelle, physique, en essayant de me réfugier dans la violence comme je pouvais, parce que du coup, avec tout ça, avec toute cette atmosphère, j'ai vite voulu sortir tout ce que j'avais dans mon corps, dans mon cœur, en voulant être violent avec les gens, en voulant détester le monde, les gens, en insufflant la haine autour de moi. En fait, je reproduisais ce que mon père m'avait inculqué, tout simplement. Du coup, j'étais à l'école, j'étais ce gars qui fallait pas trop déranger, parce que sinon directement, j'aimais me battre. Ça me faisait tellement du bien de me battre, parce que ça me faisait sortir toute la rage que j'avais en moi. C'était un besoin que j'avais. Si j'avais pas ça, je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir à ce moment-là. Je ne savais pas, j'avais pas d'issue. Pour oublier ce qui se passait à la maison, du coup, avec un papa violent, et il m'a mis après en fait, c'est dans un centre pour parce que du coup, je faisais beaucoup de conneries à faire n'importe quoi à l'école, mais ouais, des trucs bien bien moches. Ma maman, elle voyait ça, puis elle se disait, mais bon, ok, on n'a pas une situation familiale parfaite, mais elle ne savait pas que mon papa me frappait, en fait. Il y avait juste mes frères et sœurs qui le voyaient. Puis elle se disait, mais pourquoi il est autant rebelle? Pourquoi il a autant de haine en lui? Elle comprenait quand même pas ce point-là, vu que j'étais le seul à être comme ça. Et mon papa a pris la décision de me mettre dans un internat pour mineurs. C'est à Marsan, t'as les barreaux aux fenêtres. C'est tellement été, ça a été la décadence qu'on m'a mis là-dedans, parce que j'avais l'impression d'être en prison, qu'on a des barreaux aux fenêtres, qu'on peut pas sortir quand on veut. Ben, pour moi, c'est une prison. J'ai été deux fois, j'ai fait deux séjours là-bas. Et là, ça a été fini, quoi. Je voulais juste m'évader dans ma tête, dans ma vie. Donc j'ai commencé, enfin, ça faisait déjà un moment que je fumais aussi des joints. J'ai commencé les cigarettes très jeune, j'avais entre 9 et 10 ans. Je voulais juste me détruire, en fait. Mon papa me disait que j'étais une merde, pardon pour les termes, mais il faut le dire ce qui était, que j'étais rien, que je valais rien. Donc je dis, ok, je vaux rien, je vais te montrer que je vaux rien. Donc je vais tout faire pour me détruire. Donc voilà, ça a été comme ça pendant plusieurs années. J'ai pas fini l'école, j'ai arrêté l'école, j'ai fini une année avant, quoi. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple que de parler de 8e ou de 3e, ou je sais pas comment on dit tous. Je voulais faire qu'à ma tête. Je voulais juste inculquer la haine. Je me drogue. Je commence la drogue douce. Est-ce que c'est une drogue douce? Je sais pas. Ça, c'est un débat. Le cannabis. Après, j'ai commencé à faire des rencontres un peu plus sombres, à commencer d'autres drogues, à toucher des choses un peu plus profondes où je pouvais plus m'évader. Jusqu'à arriver à, malheureusement aussi, l'héroïne et puis cette drogue qui est un ravage. Toutes les drogues sont mauvaises, ça c'est indéniable. Mais l'héroïne, ce qui peut changer des autres drogues, c'est que t'as le manque physique, donc c'est un manque concret par rapport aux autres drogues où t'as, entre guillemets, gros guillemets, juste le manque psychique. Et du coup, tu te lèves le matin pour avoir ta dose. Si t'as pas ta dose, t'es en manque, donc les manques physiques, et tu transpires, t'es pas bien, t'as juste envie de t'éclater la tête contre les murs, t'as juste envie de mourir, t'es vraiment mal, et tu fais tout, et tout tourne autour de l'héroïne. Tu rêves héroïne, tu te lèves le matin héroïne, tu vas braquer s'il faut pour avoir de l'héroïne, tu tuerais père et mère pour avoir de l'héroïne, pour avoir ta dose, pour plus avoir les manques. Parce que les premières fois que tu prends l'héroïne, c'est pour t'évader, mais après ça vient vraiment ta femme, ton lien le plus fort que tu peux avoir sur cette terre. C'est tellement indescriptible le ressenti que quand tu prends cette drogue, mais je la souhaite même pas à mon pire ennemi. Je pense que c'est une des pires drogues que le diable a pu créer sur cette terre. Et heureusement que Dieu est grand et que j'en suis là aujourd'hui, mais ça, c'est que par sa grâce et sa puissance. Enfin, là, c'est pour la suite. Mais donc voilà, j'ai évolué comme ça à être dans le sombre, dans le noir, et à commencer à faire des soirées hardcore, des soirées très sombres. Je voulais juste m'évader. Je voulais plus penser à tout ce qu'il y avait dans ce monde. Je voulais plus penser à toutes les souffrances que nous tous on peut avoir, que vous tous vous pouvez avoir. On a tous des souffrances, que ce soit physique, psychologique, psychique. On a tous des souffrances. On est fait comme ça. On est sur cette terre parce que, comme vous le savez, Adam a péché. C'est une réalité, c'est pas une fable, c'est une réalité. Il a péché, Adam et Ève, et du coup, il y a eu la mort. La mort spirituelle. Du coup, il y a eu toute la souffrance qui est venue sur la terre. Par le diable, par l'ennemi, qui fait tout aujourd'hui pour nous détruire. Que ce soit tous les humains du monde. Il fait tout pour que pas un seul soit sauvé. Alors que Dieu dit dans sa parole qu'il veut que tous soient sauvés et pas qu'un seul périsse. Ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais il nous laisse la liberté. De A à Z, de notre naissance jusqu'à notre mort sur cette terre, il nous laisse la liberté. La liberté de choisir. La liberté de faire ce qu'on désire, même si lui, son premier désir, c'est qu'on soit à lui. Vous êtes beau, je voulais vous dire. Non, vraiment, vous êtes magnifique. Je ne sais pas si on vous le dit souvent, mais si moi je vous trouve beau, j'ose pas imaginer comme Dieu vous trouve. C'est tellement merveilleux de pouvoir compter sur un Père comme Dieu le Père qu'on a. Vous êtes tellement beau, je vous aime. Ouais, vraiment. Donc, des fois je fais des parenthèses, je suis un peu dans tous les sens, mais voilà. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc vers mes 18 ans, j'étais toujours dans 18, 19 ans, j'étais dans ce cercle vicieux. Et ma maman, par contre, elle est toujours à l'église. Elle priait son Dieu. Et avec ferveur, sans rien lâcher. Quand elle voit son fils se dégrader de plus en plus. Mais elle a rien lâché, elle a eu la foi jusqu'au bout. La foi paye. La foi paye. Et c'est une réalité. Et c'est la preuve pour ma maman. Ah, vous devriez rencontrer ma maman, c'est une femme extraordinaire. Une femme de prière, une femme qui veut tout pour Dieu. C'est une pépite sur la terre. Et elle a persévéré jusqu'au jour, elle me disait, quand je venais des fois à la maison, viens à l'église, ça te fera tellement du bien. Viens à l'église. Puis moi j'étais toujours, mais ta religion, mais ça n'a rien changé. Moi je suis dans les choses concrètes de la terre, je ne suis pas dans tes trucs, tes fables. Elle me répète. Puis un jour je dis, bon, vas-y, si ça peut te faire plaisir, je viens. Et puis de toute façon, c'est pas une heure dans ma vie qui va me coûter grand chose, comme ça après au moins je foutrai la paix, quoi. Je pense que je devais dépenser comme ça, au moins je serai tranquille. Je rentre dans cette église et directement oppressé, angoissé. Ah, puis les angoisses que je connaissais, j'ai oublié de vous parler de ça, mais j'ai perdu ma grand-mère. Je fais un récup. Pardon, je reviens en arrière. C'est juste pour toutes les personnes qui ont des angoisses. Ça me vient maintenant. Et j'ai perdu ma grand-mère d'une crise cardiaque. Elle avait 60 ans, je crois, une soixantaine d'années, donc jeune. Et moi, j'avais, quand elle est décédée, une dizaine d'années, à peu près. Et quand je l'ai vue foudroyée comme ça, elle allait à un anniversaire, tout simplement. Elle était en bonne santé, hein. Enfin, il n'y a rien d'alarmant. Elle va à cet anniversaire, tout d'un coup elle dit à la personne d'à côté ou d'en face, je sais plus, je vois tout noir, pff, fini, terminé, au revoir, merci, elle est morte, elle est décédée, montée au ciel. Oh punaise, ah ouais, en fait ça peut s'arrêter comme ça. Et là, depuis ce jour-là, j'ai eu des angoisses terribles à ne plus pouvoir dormir la nuit, à peur de m'endormir, par peur de ne plus me réveiller le lendemain. Donc du coup, c'était un cercle vicieux, j'étais jeune, mais chaque nuit, chaque fois que la nuit arrivait, mais j'en tremblais, j'en angoissais, j'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que mes poumons, ils venaient comme une bouteille de pète, comme ça, à plus pouvoir respirer. C'était terrible. Et du coup, ma drogue a été, pendant un temps, justement aussi, pour cette chose-là, une chose qui m'a invité d'enlever mes angoisses et de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir avancer dans la vie, malheureusement, même si c'était pas du tout la solution. Et donc je rentre dans cette église, je reviens en avant, et nouveau angoissé, une angoisse mais terrible, à presque transpirer, à me dire mais non, mais je vais pas pouvoir rester, il faut que je sorte, il faut que je dégage d'ici. Mais je me dis non, allez, combat, reste ici pour ta maman, parce que sinon elle va t'embêter toujours, n'oublie pas. Je reste. Le pasteur commence, puis je me dis, waouh, punaise, mais il parle de ma vie, c'est pas possible, il connaît ma vie, enfin, il y a un truc là, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a été parlé avec le pasteur, ou j'en sais rien. Il parle de ma vie, de A à Z, de ce que je vis dans mes émotions. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Je vais être dépendant à ça, moi. Punaise. Je m'étais, en plus, c'est gratuit. Pas si gratuit que ça, parce que le Seigneur a payé très cher, mais ça, faut pas l'oublier. Et à la fin, le pasteur a dit, tous ceux qui veulent faire un pas de plus, donner leur vie au Seigneur, qui viennent. Et là, je me sens mais poussé des ailes, comme tu as dit avant, les ailes, j'ai pas oublié. Poussé des ailes, je vais devant, je dis, ok, moi je vais essayer, j'ai rien à perdre. C'est le commencement de ma vie en Christ, mais très très loin d'être sorti de tout ce que je vous ai raconté avant. J'ai commencé comme ça, à vouloir plus du Seigneur, à essayer de comprendre qui il était, et ça a duré quelques semaines, peut-être mois, et je comprenais rien, j'avais plus envie de persévérer, juste ce flashback de ce jour-là, mais tellement furtif, et moi je voulais être tous les jours... pour oublier ce que je vivais, pour oublier les angoisses que j'avais, pour oublier les blessures que j'avais. Et du coup, bam, je retombe, je me dis, c'est bon, j'en ai marre. Je retourne dans ce que je connais, parce que retourner dans ce qu'on connaît, c'est bien plus facile. Du coup, je retourne dans ma dépendance, l'héroïne, et ainsi de suite. Et t'as l'impression que tu vois jamais le bout. Et ça s'ensuit, et les jours passent, et les semaines passent. Et tu te dis, punaise, c'est pas possible. Je vais finir ma vie comme ça. À me lever le matin, à me dire, punaise, j'ai besoin de ma dose, parce que sinon je vais pas tenir la journée, je vais me pendre, je vais sauter en bas d'un pont, parce que c'est insupportable, le manque. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, l'arme que j'avais de plus, c'est que je voulais déjà du Seigneur. Même si je le connaissais pas, en vrai, je ne savais pas exactement qui c'était, mais je savais, par contre, je crois, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi en haut. Et ça, ça a déjà été le déclic pour la suite. J'avais aussi des chrétiens qui priaient pour moi à ce moment-là. Et j'ai été vachement entouré, Dieu merci. C'est là qu'on voit aussi qu'on a tellement besoin de s'entraider les uns les autres, d'entraider les autres, d'aider les autres, d'entourer les autres, d'amour, pas de jugement. C'est tellement facile de pouvoir juger les situations des autres, mais... juste l'amour triomphe, et c'est ça qu'on a besoin, que les gens ont besoin, que nous tous avons besoin. C'est pas de jugement, c'est pas de jeter la pierre à notre frère ou à notre sœur, mais c'est de pouvoir les entourer. Et les mois s'en suivent, j'essaye, je vais faire des cures, une, deux, trois, mais rien, j'arrive pas, les années passent, c'est fatigant. Je me dis, punaise, mais c'est pas possible. J'ai envie de plus, je t'appelle en haut, mais il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? Moi, je suis là, oh, allô. Et un jour, je fais une longue cure à Lausanne, de 9 mois. Parce qu'avant, c'était des courts séjours. Et là, Dieu, dans son plan parfait, parce qu'il a un plan parfait pour chacun de vous. Même si des fois on le voit pas, même si des fois on le comprend pas, comme moi à ce moment-là, le temps passe, mais tu te dis, mais pourquoi, pourquoi? Mais Dieu, il a un temps parfait. Il voit plus loin que nous. Nous, on voit jusqu'au mur, mais lui, il voit jusque de l'autre côté du mur, jusqu'au fond, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin. Du début de notre naissance, jusqu'à la fin. Et c'est en ça qu'on peut se confier en lui. Si on passe pas par des passages de notre vie, on pourra pas avancer avec Dieu, on pourra pas grandir avec Dieu, on pourra pas être plus dépendant de Dieu. Donc des fois, on est obligé de passer par des passages qu'on aimerait mieux éviter. Mais si on passe pas par ces passages-là, ben on grandira pas. Et dans son plan parfait, je rencontre pendant ces 9 mois celui qui va devenir mon papa. Mon papa spirituel, mais surtout aussi mon papa où je vais pouvoir avoir une figure paternelle sur la terre d'un papa bon, qui m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que je peux faire. Et extraordinaire, il s'appelle Gérard. Il avait tout compris. Tout compris parce que il m'épaulait juste. Il m'aimait. Alors que, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, il n'était pas en Christ. Et il y a eu pendant ces 9 mois, ce serait trop long à expliquer, mais il y a eu pendant ces 9 mois toutes plein de circonstances qui l'ont amené, lui, à la foi. Il avait, à ce moment-là, presque 60 ans, donc c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il rencontre le Seigneur après quelques mois qu'on soit en cure, toujours là-bas, donc. Hein. Et incroyable, il avait plus de connaissances que moi. Enfin, le Seigneur l'a tellement utilisé pour m'entourer. Il connaissait la Bible, la parole de Dieu, mais incroyablement bien. Et il me défiait. Il me défiait dans le bon sens, parce que quand je voulais consommer, tout le monde aurait dit, non Yvan, non, va pas consommer, s'il te plaît, ça va te détruire, arrête. Lui il me disait, vas-y, va consommer. Puis je lui ai dit, mais t'es gentil toi, tu t'en as rien à secouer de moi. Mais il a tellement su me prendre, parce qu'il m'a montré son amour justement en me laissant libre. La liberté que Dieu le Père nous laisse. Mais par contre, sitôt que j'étais au fond, il était toujours là à me récupérer, toujours dans l'amour. Si je consommais, ok, j'étais détruit, j'étais pas bien, il ouvrait sa porte et je pouvais toujours aller auprès de lui. Il m'écoutait toujours, il me jugeait pas. Et c'est ça que j'avais besoin. C'est exactement ça que j'avais besoin à ce moment-là. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que Dieu, il voulait une relation avec moi. Il voulait pas juste être un Dieu éloigné qu'on entend comme ça par des fables, par des fois qu'on va à l'église. Ah ouais, c'est bien, ah ouais, ouais, ah c'est chouette. Ah, t'as l'air d'avoir un grand Dieu. Puis on n'avance pas. Mais il veut une relation avec nous. Une relation d'amour. Il nous aime. Comme je vous ai dit au début. Et ça, il me l'a fait comprendre. Il me l'a inculqué. J'ai passé des heures et des heures dans sa chambre à prier avec lui, à être enseigné. Mais je me battais toujours avec les runes à ce moment-là. Ça, on ne faut pas oublier. C'était toujours un truc là. Mais lui, il me défiait. C'était bien, c'était bon parce que il m'apportait tout son amour. Toute sa compassion. Et les semaines passent, et un jour je suis dans ma chambre tout seul. Et je dis, Seigneur, sincérité de cœur, vraiment je crois que c'est. Je crie à Dieu de tout mon cœur. Je dis, mais je veux plus, j'ai besoin de toi, sors-moi de cette drogue, sors-moi de cette dépendance. Je ne veux que toi, je veux vivre pour toi. Mais sors-moi de ça, je ne peux plus, ça fait des années. Sors-moi de ça. Je ne sais plus exactement le nombre de jours après, je ne veux pas inventer, mais je crois que c'était genre 2 ou 3 jours après. Je consomme, je suis dans ma chambre. On n'avait pas le droit de consommer en chambre, hein, mais bon, ça, voilà. Je consomme dans ma chambre. Et là, c'était le soir, je crache du sang. Je dis, oh punaise. Ce qui est assez contradictoire, c'est que je consommais beaucoup, mais j'avais hyper peur pour ma santé. Ça, je peux pas trop l'expliquer. En tout cas, pour l'instant, encore. Mais je faisais tout pour me détruire, mais en même temps, de l'autre côté, j'avais hyper peur de mourir. J'avais hyper peur pour ma santé. Parce que même si je rencontrais de plus en plus le Seigneur, que je commençais à plus le connaître, j'avais toujours peur de la mort. Donc j'avais ces deux sens-là. Et me dire, mais où j'irais, quoi? Je crache ce sang, c'est 11h, minuit, 1h le matin, je sais plus. Et je me dis, bon, Si je vais dire aux infirmiers en bas, ils me virent parce qu'on n'avait pas le droit de consommer, on était virés si on consommait dans l'établissement. Et si je fais rien, peut-être que je meurs cette nuit. Parce que cracher du sang, c'est pas le meilleur, quoi. Bon, c'est pas grave, je dors et puis j'irai demain matin. Je me dis, au pire, voilà, c'est pas grave. J'essaye de m'apaiser comme je peux. Le lendemain matin, je vais vraiment pas bien, j'ai la tension hyper basse. Et là, je me dis, t'as pas le choix, c'est pas grave si tu te fais virer, mais là, c'est quand même ta santé qui est en jeu. Je vais directement vers l'éducateur, vers la chef des éducateurs. Et puis, je lui dis, écoutez, faut que je vous parle tout de suite. Voilà. On va lui parler, je lui dis, écoutez, là, je suis pas bien, j'ai craché du sang, etc., etc. Elle me dit, ok, bon, elle appelle directement l'ambulance, c'était pas le problème d'être viré maintenant ou pas. Et puis, la tension hyper basse, ils m'emmènent à l'hôpital de Lausanne, ils me font des examens. À ce même moment, je perds mon psychologue que j'avais pour les stupes, donc c'était pour prendre mes médicaments, pour les substitutifs, pour pas avoir les manques physiques. Donc au moins j'avais pas les manques physiques, mais du coup souvent soit je la revendais pour prendre l'héroïne, enfin c'est tout un truc. Et j'avais une telle confiance en lui parce que, je sais pas si vous avez déjà eu des psychologues, mais j'en ai eu tellement dans ma vie. Mais quand on trouve un bon qui ne te juge pas, qui a eu des passages difficiles, que c'est juste pas de la théorie mais que c'est de la pratique, t'as envie de le garder. Et lui c'était ça, c'était pas que de la théorie qu'il me disait, mais c'était de la pratique qu'il avait vécue. Et là, au même moment, je suis dans cet hôpital, je suis sur mon lit, et par des circonstances, il est plus là, il doit partir. Donc ce sera plus jamais mon psychologue. Et là je me dis, mais qu'est-ce que tu fais je te crie l'autre jour pour venir m'aider, puis là tu me fous encore plus dans la muse, quoi. Mais il voulait que je dépende de lui. Ça, je l'ai compris bien plus tard. Et là, je suis dans mon lit d'hôpital, je me dis, tu continues comme ça dans un mois, deux mois, au mieux peut-être une année, t'es mort. T'es froid et puis tu retournes à la terre, à la poussière. Et tu sais pas où tu iras en plus. Ou je mets tout mon cœur pour le Seigneur, je l'implore, je fais tout pour le rencontrer, pour mieux le connaître, pour savoir qui il est, pour ce qu'il dit dans sa parole, et je me mets à 100% pour lui. Et voilà, je suis là aujourd'hui, donc je crois que le choix a été fait. Ça a été le déclic que Dieu a utilisé pour me faire comprendre que c'était soit j'avais ce choix, soit je choisissais la mort de quelques semaines, soit je choisissais la vie. Pour l'éternité. Depuis ce jour-là, j'ai pu retoucher. C'était au mois de juillet 2019. Ma femme, c'est mon post-it, elle est incroyable. Et c'est bien, je suis sorti de l'héroïne. Mais le problème, c'est que j'ai encore mon substitut, quoi. Le problème, c'est que je ne peux pas l'arrêter comme ça, parce que je l'arrête, j'ai des manques physiques, et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est de la drogue légale pour moi. La plupart des héroïnomanes, ils le gardent à vie, s'ils arrivent à arrêter, déjà l'héroïne. Mais moi, je suis mon nouveau psychologue, que je n'ai pas eu le choix d'avoir. Et je me dis, moi j'ai un Dieu bien plus grand. Je dis au psychologue, moi je veux arrêter ça. On va mettre ça en place, je veux y arriver. On va y arriver parce que le Seigneur est plus grand. Donc commence les longues années d'essayer de baisser petit à petit le traitement avec le Seigneur, par foi, par prière. Et aujourd'hui, Dieu m'a libéré de tout. Il me manque une chose, c'est encore la cigarette, mais ça, j'y suis bientôt par la puissance du Seigneur. Mais il m'a libéré de la peur de la mort. Il m'a libéré de cet engrenage sans fin de la drogue et de l'héroïne. Et il m'a libéré de mon substitut, parce qu'on l'oublie des fois. Mais il y a aussi encore ce substitut qui tient. Parce que tu te lèves le matin, même si tu n'as plus l'héroïne, mais tu as ça. Tu te lèves le matin, tu as quand même les manques. Tu as les froids, tu as les chauds, tu as les manques qui commencent. Tu es malade, en fait. Tous les matins, tu es malade. C'est comme si tu te levais tous les matins que tu avais 42 fièvres, quoi. Donc, c'est pas génial tous les jours de ta vie. Mais il m'a libéré de ça aussi. Et Dieu est tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. On le limite tellement. C'est nous qui limitons, c'est pas lui qui se limite. On limite dans tout, dans notre dépendance à lui, dans les œuvres qu'il peut faire dans nos vies. Il peut tout faire, c'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et ça, on a tellement tendance à oublier, et moi le premier. moi le premier. Mais si on se confie en lui, il est capable de guérir, il est capable de combler, il est capable de tout. Mes amis, mes frères et sœurs, mes amours que j'aime, oubliez pas ça. Mais ce qu'il veut, lui, c'est qu'on soit dépendant de lui. C'est un Dieu jaloux. Ça, il faut pas l'oublier. Mais c'est comme ceux qui sont mariés. On est quand même un peu jaloux quand notre dame va voir ailleurs. Enfin, va voir ailleurs, ou parle avec un garçon, ou on voit qu'il y a un rapprochement, ou des trucs comme ça, on se dit... Exactement, ouais. Ou le mari. Ah, mais bien sûr, ça va dans les deux sens, hein. Eh ben, Dieu, c'est la même chose. Il a tout donné pour nous, c'est lui qui nous a créés. Alors, si nous, on est là sur notre smartphone toute la journée à avoir rien à secouer, ou bien de... J'en sais pas, il y a tellement d'exemples, mais de le mettre de côté, de pas le mettre en premier, de dire oui, t'es gentil, merci, allez, bonne journée. Ouais, je te remercie juste pour le repas, mais on se voit plus tard. Sois béni. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, mais ouais, c'est bien. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il nous a pas créé pour ça, lui, il veut une relation d'amour, d'intimité, de proximité avec nous. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Il veut un cœur pur. Il veut qu'on soit sincère devant lui. C'est tout ce qu'il demande. C'est qu'on soit juste sincère de cœur. Et en contrepartie, il nous apporte tout. Tout. Il nous comble de tout. De bonheur. Il a des projets de paix, de non, de malheur. C'est dit dans sa parole. Et c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Croyance qui est dit dans sa parole. Croyance qui nous dit dans nos temps d'intimité. Mais ne le mettons pas de côté, parce que c'est nous qui sommes perdants au final, pour les bénédictions qu'il a pour nous. Et dans ce monde où tout va à mille à l'heure, dans ce monde où, comme je disais au début, où tout est fait pour nous distraire, il y a tout aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les ordinateurs, il y a les jeux, il y a les voitures, il y a la beauté, il faut se faire beau, j'ai un ongle cassé, j'ai un cheveu, un cil qui part comme ça. Tout est fait dans le paraître. C'est un monde de paraître, les réseaux sociaux. Je ne juge pas, hein. C'est juste une réalité, une constatation. Et ça nous éloigne du Seigneur. Ça l'attriste parce qu'il se dit, mais moi je t'ai créé comme ça, que tu as une mèche comme ça, que tu as une cicatrice là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, moi je t'aime comme ça. C'est pas ça le principal. C'est ce que tu as là. C'est ce que tu veux pour les autres. Le paraître, c'est quoi? On va tous être disparus, on va revenir à la poussière. On sera beau et blanc et flagrant et beau et grand. Ce sera dans le ciel. Mais c'est pas pour cette terre. Donc, c'était juste ça que j'avais envie de vous partager. Je pense que on a tellement besoin de revenir à des cœurs à cœur avec notre Père, avec notre bon Père qui nous aime. Revenir au Seigneur Jésus, qui nous a tout donné, qui a tout sacrifié, qui a vécu sa vie de sacrifice pour nous. Lui, il voulait pas le confort. Il a dit qu'il n'avait pas de maison pour se reposer. Il vivait pas pour manger, il vivait pas pour les loisirs. Mais il a vécu une vie de A à Z pour ce qu'il devait faire. Il savait déjà où il devait aller. Il savait qu'il devait aller jusqu'à cette croix pour souffrir, pour prendre tous nos péchés. Quelles heures terribles, enfin on ne peut pas imaginer les heures qu'il a dû passer sur cette croix à prendre tous nos péchés. Quelle souffrance terrible. Il a vécu cette vie de sacrifice parfaite pour nous. Et je vous incite, je vous implore de pouvoir essayer à mener cette vie de sacrifice, à porter notre croix pour le Seigneur. Il nous a tout donné, alors pourquoi pas redonner en retour? C'est pas faire pour faire, c'est pas ça que je vous dis, attention. Mais c'est par amour pour lui, pour son royaume, pour sa justice. Parce qu'il nous aime, je dis beaucoup, il nous aime, mais c'est pour vous intégrer, pour que j'intègre aussi, parce que des fois, moi je l'oublie aussi. Hein. Il nous aime, repentons-nous, venons devant sa face, des cœurs à cœur, crions notre cœur, comme quand j'étais en cure, où j'ai crié de tout mon cœur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, et c'est pas notre paraître, c'est pas faire des choses pour faire des choses, mais il veut notre cœur avant tout. J'avais juste reçu, pendant mes temps que je prenais justement pour cette journée, j'avais un passage, je savais pas si je devais le lire, et puis en venant ici, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Et je crois vraiment que c'est un passage pour nous tous. Pour moi, le premier. C'est dans Joël 2, au verset 12. C'est tellement le moment qu'on revient au Seigneur, dans ces temps où où tout est fait pour nous oppresser, où tout est fait pour qu'on déraille, pour tout est, où tout est fait pour que, qu'on pète un câble, il faut le dire. La société nous oppresse, où tout doit aller vite. Si on n'a pas le dernier smartphone, ça ne va pas. Si on n'a pas ci, ça ne va pas. Si on n'a pas le dernier fringue à la mode, ça ne va pas. Tout est fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que tout aille vite, pour qu'on déraille dans nos têtes. On prend des médicaments pour prendre des... Je dis pas que les médicaments sont pas bons. Je pense que les médicaments peuvent être utilisés par Dieu, attention, mais on prend des médicaments pour oublier, on prend aussi pour... Puis tout est fait pour qu'on déraille complet. L'ennemi, c'est ce qu'il fait, hein, il a un plan lui aussi. Dieu, il a un plan parfait pour notre vie, mais l'ennemi, il a aussi un plan. Ça, faut pas l'oublier. Donc on doit combattre le bon combat, les amis. On pourra se reposer au ciel. On sait que sur cette terre, c'est pas facile. Mais on sait que Dieu nous accompagne sur ce chemin de notre vie. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui est bon. On sait qu'on a un Dieu qui est plus grand que tout ce qui est sur cette terre. Bien plus grand que Satan. Il est plus grand. J'ai juste une image à vous montrer que j'ai mis sur mon attel depuis. On parlait des smartphones avant. J'ai mis depuis longtemps. Bon, je pense que vous ne verrez pas tous. Mais ça, c'est Goliath. Ça, c'est David. Donc, Goliath, il est tout grand. Et David, il est tout petit. Puis en fait, il y a l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, qui est bien plus grand que David. En fait, on n'a rien à se soucier, on a juste à se confier en Dieu. C'est juste ça que je voulais vous partager. Et le passage, pardon, je suis nouveau parti dans mon délire, mais « Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. » Il est bienveillant, il est compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera peut-être d'avis et vous comblera de bienfaits. Vous pouvez alors lui apporter des offrandes de blé et de vin. Ça, c'était dans Joël 2, verset 12. Et c'est juste sur ça que je voulais terminer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous encourage vraiment à implorer le Seigneur dans ces temps, de tout votre cœur. Soyez fortifiés, bénis dans ce combat qui est sur cette terre, mais où l'éternité sera tellement belle auprès du Père. Je vous aime.